Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Sans blague, c'est bien votre ferme. Tous les gars peuvent pas réussir à vivre de la terre, vous savez. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. C'est ça, être libre.
Soulever la question « qu'est-ce que la liberté ?» semble une entreprise désespérée. Tout se passe comme si des contradictions et des antinomies sans âge attendaient ici l'esprit pour le jeter dans des dilemmes logiquement insolubles, de sorte que, selon le parti adopté, il devient aussi impossible de concevoir la liberté ou son contraire que de former la notion d'un cercle carré. L'équipe des Nouveaux Chemins ne se désespère jamais, même quand elle s'interroge sur l'essence de la liberté, en compagnie de Colomba Grossi, Lucie Tardy, Antoine Ravon et Marianne Chassor, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie qui, à 10h51, vous proposera ses 2 minutes papillons quotidiennes. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, un essai sur le despotisme, un texte d'Abd al-Rahman al-Kawakibi, paru en 1902, mais publié pour la première fois en français chez Actes Sud.
Pas facile à dire, hein. Rendez-vous à 10h51. La crise de la culture d'Anna Arendt paraît en France en 1972 dans un monde bien différent du nôtre. La conquête de l'espace bat son plein, la guerre froide aussi. Moins de 30 ans sépare le monde de l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant le constat est le même. Car la crise n'a rien de nouveau, comprend-on à la lecture de ces articles, qui auscultent tour à tour l'histoire, l'éducation dont vous a parlé hier Anne Dalsuet, l'autorité qu'a évoqué pour vous lundi Jean-Claude Poisat, la politique, les sciences et leur influence sur le totalitarisme, ainsi que vous l'a expliqué mardi Michel Elchaninoff, et la liberté, enfin, sans laquelle le travail philosophique ne vaudrait pas une heure de peine. Et pourtant, insiste Arendt, la liberté n'est pas un concept, ni un objet de pensée, mais la raison d'être de la politique et son champ d'expérience, l'action. Cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine qui consacre ce mois-ci un hors-série à la philosophe Anna Arendt. Et avec nous pour cette dernière émission consacrée à la philosophe, j'ai le grand plaisir de recevoir Étienne Tassin. Bonjour à vous Étienne Tassin.
Bonjour Adèle.
J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral?
Moi, je me sers où je peux.
Je prends ce que je peux et ce qui me convient. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
René Char, c'est notre héritage n'est garanti par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free.
Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé.
Étienne Tassin, vous enseignez la philosophie politique à l'Université Paris 7 Denis Diderot et vous avez écrit en 2012 Le maléfice de la vie à plusieurs, la politique est-elle vouée à l'échec ? Ainsi qu'en 99, le précédent livre que je viens de citer était chez Bayard et chez Payot en 99, Le trésor perdu, Hannah Arendt et l'intelligence de l'action politique. Ça tombe bien car il va en être question aujourd'hui. Nous avons entendu la voix d'Hannah Arendt dans le documentaire de Roger Herrera qui date de 1974. Je ne suis pas du tout sûre d'être libérale, dit-elle. Avant de citer René Char, qui ouvre une citation qui ouvre la crise de la culture, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Ce qui signifie que pour elle, en fait, le rapport que nous entretenons à notre liberté dépend celui que nous entretenons à notre propre passé.
Oui, en effet, ça dépend. Cette question de la liberté dépend du rapport que nous sommes capables de construire avec notre propre passé, à la fois sur le plan personnel, évidemment, sur le plan biographique, si l'on peut dire, et à la fois sur le plan collectif, sur le plan politique. Lorsqu'elle cite René Char en disant que nous vivons dans un monde intestat, c'est-à-dire dont le mode d'emploi ne nous a pas été légué avec l'héritage, elle signifie qu'en réalité, le fil qui nous relie à la tradition a été rompu et qu'il nous revient à nous d'inventer, donc de commencer, plutôt que de simplement poursuivre. C'est pas forcément une très bonne chose, mais c'est la situation de fait. Et c'est ça qui libère la possibilité de la liberté. Mais si on pense la liberté comme la capacité de commencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de donner naissance à un monde nouveau qui n'est pas prisonnier de son propre passé, on le fait, comme elle dit, en puisant néanmoins dans les choses du passé. Cette très très belle phrase comme ça, elle dit « je prends où je peux ».
Elle dit
absolument
en français,
pas en français, ça. C'est merveilleux. Ça n'est absolument pas du dilettantisme et de la désinvolture. Non, ça veut dire que il y a des ressources, comme elle le dit d'ailleurs à propos de Benjamin, qui sont des perles au fond de l'océan. Il nous faut aller chercher ces ressources et on va attraper celles qui vont nous permettre de penser le présent. Et ça, je pense que c'est très important parce que si on le relie avec l'affirmation initiale de son propos, c'est-à-dire « je ne suis sans doute pas ou peut-être pas ou ne croyez pas que je suis une libérale », outre que simplement elle nous dit quelque chose d'important. L'interprétation générale d'Arendt, telle qu'elle a été reçue en France, c'est d'en faire une penseuse libérale, ce qui est une manière d'évacuer la penseuse, la vraie penseuse qu'il y a dedans. Et ce qu'elle nous dit, c'est la chose suivante, c'est que l'idée que je me fais de la liberté, c'est pas la libéralité et c'est pas la doctrine politique du libéralisme. Et en effet, elle a un concept de liberté qui est tout simplement révolutionnaire. Et ça, on ne le mesure pas assez.
Et qui ne se réduit pas à l'état de concept, justement. Tout l'article sur qu'est-ce que la liberté dans la crise de la culture insiste là-dessus.
Oui, c'est pas un concept. C'est-à-dire que c'est d'abord une expérience et ça a d'abord été un statut. Ça a été l'expérience d'un rapport d'égalité entre des individus dans la cité athénienne et ça a été le statut qu'on appelait le statut des hommes libres dans le contexte de cette démocratie. Et donc, il nous faut séparer très explicitement un concept philosophique qui est d'une certaine façon dommageable en termes politiques, d'une expérience politique qui a été malheureusement dans notre tradition recouverte par le concept philosophique. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne là-dessus, c'est-à-dire sur cet écart et cette différenciation qui est décisive.
On a toute l'heure pour le faire, mais juste une question qui me semble permettre d'entrer d'emblée dans ce texte-là. Comment peut-on être libre dans un monde qui nous préexiste ? Le monde n'est pas jeune, comme le chantent Robert Plant et Jimmy Page dans la chanson qui a ouvert cette émission. Le monde est bien vieux et nous sommes, en naissant, nous sommes une forme de commencement absolu qui hérite parfois lourdement de ce monde qui nous précède.
Oui, il faut éviter un contresens qui est malheureusement dominant. Être libre ne signifie pas être détaché de tout ou être dans une sorte de posture qui serait sans obligation ou sans contraintes issues du monde auquel en réalité nous appartenons et dans lequel nous vivons. Donc ce monde nous a toujours déjà précédé et a déterminé ce que nous sommes, ce que nous pouvons être et l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. La question n'est donc pas de penser que la liberté se construit contre cette appartenance et cet attachement. Elle consiste à penser que dans ce monde-ci qui est beaucoup plus vieux que nous et qui nous précède et qui définit l'ensemble des possibles pour nous, nous sommes capables de commencer quelque chose de nouveau ou pas. Est-ce que nous restons justement prisonniers d'une tradition ? Est-ce que nous sommes dans la reconduction, la répétition du passé ? Ou est-ce que nous nous posons dans le monde comme ceux qui peuvent commencer quelque chose qui est absolument radicalement nouveau ? Et c'est ça son idée de la liberté. Le commencement de quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est le monde qui nous offre la possibilité d'être des commenceurs, ceux qui allons commencer quelque chose de nouveau.
C'est la thèse des considérations suivantes que le phénomène de la liberté n'apparaît pas du tout dans le domaine de la pensée, que ni la liberté ni son contraire ne sont expérimentés dans le dialogue entre moi et moi-même, au cours duquel surgissent les grandes questions philosophiques et métaphysiques, et que la tradition philosophique a faussé au lieu de la clarifier. L'idée même de la liberté telle qu'elle est donnée dans l'expérience humaine, en la transposant de son champ originel, le domaine de la politique et des affaires humaines en général, à un domaine intérieur, la volonté, où elle serait ouverte à l'introspection. Le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème certes, mais comme un fait de la vie quotidienne, est le domaine politique. Et même aujourd'hui, que nous le sachions ou non, la question de la politique et le fait que l'homme possède le don de l'action doit toujours être présente à notre esprit quand nous parlons du problème de la liberté. Car l'action et la politique, parmi toutes les capacités et possibilités de la vie humaine, sont les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l'idée sans présumer au moins que la liberté existe. Et nous ne pouvons toucher à une seule question politique sans mettre le doigt sur une question où la liberté humaine est en jeu. Sans elle, la vie politique comme telle serait dépourvue de sens. La raison d'être de la politique est la liberté, et son champ d'expérience est l'action.
La tradition philosophique a faussé, au lieu de la clarifier, l'idée même de la liberté telle qu'elle est donnée dans l'expérience humaine, écrit Hannah Arendt, ce qui est quand même une affirmation assez forte, parce qu'elle elle semble objecter à l'histoire même de la philosophie son absence de capacité à s'emparer de cette question de la liberté. Comment on explique ça, Étienne Tassin ?
Il y a un vieux conflit entre la philosophie et la politique, et c'est d'ailleurs une entrée intéressante dans le problème. Arendt conçoit qu'au fond la philosophie dite politique s'est construite comme une sorte de théorie visant à protéger le philosophe de l'expérience de la pluralité, de la liberté et des commencements, de le mettre à l'abri au fond de ses risques, de ses périls qui accompagnent l'existence, en l'installant dans une sorte de tour d'ivoire où il peut, lui, légiférer, régenter, comme un hôpital de fous, les membres de la société. Et donc, au fond, la philosophie politique traditionnelle dominante n'est pas du tout une élaboration de la chose philosophique, c'est une de la chose politique, c'est une élaboration philosophique antipolitique. C'est-à-dire, au fond, il faut se tenir à l'écart et donc régenter la politique. Ce qui veut dire qu'il y a eu, dans notre tradition, l'élaboration progressive d'un concept de liberté philosophique et métaphysique qui a fini par être importé dans le champ politique en lieu et place de l'expérience politique de la liberté. Et les effets en sont extrêmement dommageables. Pourquoi ? Parce que cette élaboration philosophique, elle a consisté à penser que être libre signifiait de pouvoir se dominer, d'exercer sur soi une souveraineté. Et par conséquent, d'associer la capacité de liberté à une capacité de pouvoir, elle-même entendue comme un rapport de domination sur soi, qui bientôt d'ailleurs s'entendra comme une domination exercée sur les autres. Et c'est dans une tradition stoïcienne...
Alors, c'est la manière de d'Épictète, en réalité.
Voilà, c'est dans cette tradition stoïcienne que cette idée surgit, c'est-à-dire être capable de se contrôler et de se maîtriser soi-même comme condition de la liberté. Mais ça a été repris et développé dans une tradition chrétienne, paulinienne d'abord, puis augustinienne, dont elle fait la généalogie, et qui aboutit à cette idée qu'au fond, être libre, c'est vouloir et pouvoir ce que l'on veut. Mais cette volonté, comme saint Paul, comme saint Augustin l'ont mis en évidence, est toujours prise dans une contradiction, puisqu'au fond, je veux quelque chose, mais je ne peux pas ce que je veux. Et il va falloir surmonter cette contradiction en exerçant sur soi une domination telle que l'on puisse, en quelque sorte, lever les obstacles qui font que je ne peux pas ce que je veux. Ce qui veut dire qu'on finit par assimiler la liberté à une capacité de domination et un principe de souveraineté.
À la volonté ?
Et donc à la volonté, comme si c'était l'exercice de la volonté. Or, cette tradition est dominante, elle est quasi indiscutable. Il est évident, quand vous demandez à des gens qu'est-ce que c'est pour vous la liberté, ils vont d'abord convoquer l'idée de la volonté, c'est-à-dire un concept de libre arbitre et d'autodétermination grâce auquel vous allez pouvoir entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Mais la conséquence de cette représentation philosophique, voire métaphysique de la liberté, c'est de faire la liberté d'abord l'attribut d'un sujet, la faculté d'un individu, et non pas son rapport à un autre, mais sa faculté, son attribut, et d'autre part, de donner comme réel contenu à l'exercice de la liberté la pratique d'une souveraineté. Il suffit de transposer cette idée dans le domaine de la politique pour que tout d'un coup, nous comprenions que la grande question politique, Rousseau en aura été aux yeux d'Arendt, celui qui n'est pas le formulé de façon évidemment magistrale à l'aube de la modernité, la question devient celle d'un peuple souverain. Un peuple libre est un peuple souverain, c'est-à-dire, dira Rousseau, qui n'obéit qu'à soi-même, c'est-à-dire qui est capable de s'imposer une contrainte sous forme légale et de se soumettre soi-même à une domination. Et donc le vrai contenu de la liberté, confondu avec la souveraineté, c'est la capacité que nous avons de nous soumettre, c'est-à-dire de ne pas être libre. Contre cette expérience-là, contre ce concept plutôt, Arendt dit « mais il y a une autre expérience ». C'est ce qui s'est mis en place dans les institutions politiques démocratiques d'Athènes et qui est tout simplement un rapport d'égalité entre des individus. Donc la liberté n'est plus l'attribut d'un sujet, c'est un rapport. Le contenu de ce rapport, c'est l'égalité.
Donc elle dit aussi la liberté de la volonté pour l'associer à l'égalité.
Exactement. Et le problème est que cette expérience-là, que l'on va retrouver dans une tradition minoritaire et non pas dominante, qu'on va voir ressurgir chez Machiavel par moment, qu'on peut voir ressurgir chez Montesquieu, dont elle dit que Kant le comprenait aussi comme ça, c'est cette idée-là de la liberté qu'il nous faut réactiver aujourd'hui contre ce que j'appellerais le fantasme de la souveraineté, de la toute-puissance, de la domination, du contrôle de soi. Il faut faire revivre, réactiver cette idée de la liberté comme capacité de commencer quelque chose et non pas comme capacité de dominer quelque chose. Et ce commencement de quelque chose, c'est forcément un commencement avec d'autres. Et donc, de nouveau, c'est la question, toujours dans l'action politique, c'est la question de l'égalité du rapport que je suis capable d'instaurer quand je veux faire exister une liberté avec quelqu'un d'autre.
Donc la liberté est inconcevable sans le rapport à autrui.
Oui, absolument. Ça, c'est l'idée arendtienne de fond. La liberté, c'est ce qui qualifie un rapport entre moi et les autres, entre chacun de nous, entre une pluralité d'individus. C'est absolument pas la disposition personnelle ou individuelle ou la faculté particulière d'un sujet.
Et pourtant, quand elle en fait une faculté de commencement absolu, celui-ci ne peut être qu'individuel. On peut construire à plusieurs, mais le commencement, l'acte même de naissance, puisqu'elle insiste dessus sur cette idée de natalité comme commencement absolu, c'est toujours la naissance d'un individu.
Vous avez absolument raison, et pourtant je le dirais tout à fait autrement. C'est pas la naissance d'un individu. C'est la naissance d'une singularité agissante qui est la production de moi comme acteur agissant. Ce qui n'est pas du tout la question de mon individualité. Moi, j'ai une identité qui est en quelque sorte construite socialement, culturellement. Et on pourrait penser que je ne suis rien d'autre que l'expression de cette identité-là qui procède des identifications aux communautés auxquelles j'appartiens, dans lesquelles j'ai été élevé, j'ai grandi. Bon. Et ce que dit Arendt, c'est ça. C'est que quand j'agis, et que donc je commence quelque chose, je me fais naître sous une forme différente de cette identité-là. Je l'appellerai alors du coup, je me fais naître sous la forme d'une singularité agissante, qui est le commencement de moi, d'un moi inconnu auparavant, nouveau, inédit, en même temps que c'est le commencement d'un rapport aux autres, nouveau, inédit, qui n'était pas établi auparavant, et le commencement d'un monde commun entre nous, nouveau, inédit, qui n'était pas donné auparavant. Et c'est comme ça qu'on retrouve dans l'idée de commencement cette idée que nous sommes au monde, mais de ce monde, nous devons faire quelque chose par les commencements dont nous sommes capables.
Mais ça veut dire aussi que nous héritons d'une responsabilité. Et que là, cette fois-ci, peut-être qu'on a dissocié, que Arendt a dissocié liberté de la volonté, de la souveraineté, mais il reste celle de la responsabilité qui fait que, avec chaque action, chaque commencement, dans chaque action se détermine le rapport que j'entretiens avec le passé, avec le monde et l'avenir que je nous dessine.
C'est exactement ce qu'implique en effet cette idée de l'action comme commencement. C'est que toute action et tout commencement engagent quelque chose du monde qui porte du coup la responsabilité non seulement de ce que je fais, mais de ce que j'établis en le faisant avec d'autres, de ce que cela transforme et induit dans le monde et des conséquences que cela aura et qui vont m'échapper totalement, bien évidemment, puisque je n'en suis pas maître, je n'exerce aucun contrôle et aucune souveraineté là-dessus. Et donc l'idée de la responsabilité est attachée à ce concept de la liberté comme commencement de façon bien plus décisive et politiquement bien plus significative qu'il ne l'est à l'idée de la liberté comme réalisation de sa volonté dans la tradition philosophique. Ceci renvoie à un autre régime, qui est le régime de l'imputabilité, de la responsabilité, etc., qui suppose qu'il y a un auteur des actes qui puisse être identifié. Ce que dit Arendt, c'est une autre logique. C'est que c'est en agissant que je nais de mes actions. Je ne suis pas l'auteur de mes actions. Je suis le fruit de mes actions, je suis l'enfant de mes actions, je suis celui qui naît de mes agir. Et mes agir, ce sont des agir avec d'autres, ensemble. Donc collectivement, nous nous donnons à chacun naissance en même temps que nous donnons naissance à la communauté que nous constituons et au monde que ça va former. Et nous portons la responsabilité de tout ça, bien évidemment, oui.
Acte, envisagé non pas du point de vue de l'agent, mais dans la perspective du processus dans le cadre duquel il se produit et dont il interrompt l'automatisme, est un miracle, c'est-à-dire quelque chose à quoi on ne pouvait pas s'attendre. S'il est vrai que l'action et le commencement sont essentiellement la même chose, il faut en conclure qu'une capacité d'accomplir des miracles compte aussi au nombre des facultés humaines. Cela paraît plus étrange que ce ne l'est en fait. Il est de la nature même de tout nouveau commencement qu'il fasse irruption dans le monde comme une improbabilité infinie. Mais c'est précisément cet infiniment improbable qui constitue en fait la texture même de tout ce que nous disons réel. Toute notre existence repose, après tout, pour ainsi dire, sur une chaîne de miracles. La naissance de la Terre, le développement de la vie organique à sa surface, l'évolution du genre humain à partir des espèces animales. Car du point de vue des processus de l'univers et de la nature, et de leur probabilité statistiquement accablante, la naissance de la Terre à partir de processus cosmiques, la formation de la vie organique à partir de processus inorganiques, enfin l'évolution de l'homme à partir des processus de la vie organique, sont toutes des improbabilités infinies, ce qu'on appelle couramment des miracles. Et c'est à cause de cet élément du miraculeux présent dans toute réalité que les événements, aussi précisément que nous les fasse prévoir la crainte ou l'espoir, nous laisse toujours sous le coup de la surprise quand ils se produisent. Broken hearts and shattered dreams, like wreckage on the ground. The memory of those poor souls who were lost but never found. They shook their fists and cursed the sky, demanding explanations. No answers came, no soothing words, just silence and frustration. But in Jordan Town, the sun shone bright, a miracle. The light of love poured down, it's a miracle. Our hearts were pure, we knew for sure, a miracle. That God had spared our town. Connaissez-vous la série télévisée The Leftovers, Étienne Tassin?
Hélas, non.
Eh bien, je vous recommande de la regarder dès le moment où vous rentrerez à la maison après cette émission.
Je m'y emploie immédiatement.
Car
oui.
je vous donne juste l'idée générale. Vous allez comprendre pourquoi on vient d'en diffuser la chanson et le thème principal. C'est un certain 14 octobre d'une année, disparaissent 2% de la population mondiale. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment, on ne sait pas où ils sont allés, mais il y a une disparition à laquelle on assiste, comme de manière justement miraculeuse, sans explication, un événement absolument imprévu, sauf dans une ville où les personnes ont été épargnées, et cette ville va proposer une sorte d'hymne de la ville, qui est ce qu'on vient d'entendre, Miracle, ça s'appelle, et la ville est rebaptisée Miracle, puisque justement cette ville a été épargnée. Et la série, dans son intégralité, illustre exactement la contingence dont parle Arendt, parce qu'il y a vraiment une ontologie chez Arendt, une ontologie, on pourrait dire, aristotélicienne. Nous vivons dans un monde absolument contingent, où rien n'est prévisible, ce qui donne tout son sens à l'action, et ce qui explique pourquoi elle identifie ici une forme d'action, de commencement vital, comme un miracle. Il faut comprendre le thème au sens le plus fort possible.
Oui, ce qui est... Donc je vais me précipiter sur cette série, mais bon, parlons quand même un peu d'Arendt là tout de suite. Ce qui est extrêmement sympathique, je trouve, chez Arendt, c'est que, et ce qui témoigne de son incroyable liberté d'esprit, c'est qu'elle va puiser dans un vocabulaire, un lexique et une expérience qui est religieuse. Le thème du miracle, souvent elle cite Jésus de Nazareth, un enfant nous est né, les commencements, etc., la bonne nouvelle. Bon. Quand elle puise dans ce fond-là, c'est qu'en réalité, elle y reconnaît quelque chose d'absolument décisif que le rationalisme occidental a voulu en quelque sorte écarter, et écartant cela, il manque quelque chose qui est absolument décisif. La notion de miracle, évidemment, a un contenu totalement non clérical et non religieux. C'est l'infinie improbabilité que cela se produise. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, dans ce que vous venez de dire de cette histoire, 2% de la population disparaît. Ça, ce sont des événements du monde. Donc, d'un côté, dit-elle, le monde est constitué, le réel est tissé, dit-elle, la texture du réel, de ce que nous appelons le réel, c'est une somme d'infinies improbabilités. Bon. Mais l'improbabilité infinie a une autre dimension, qui est que les hommes agissant, les êtres humains agissant, ce qu'ils commencent, est aussi d'une infinie improbabilité. Plus la probabilité est grande, moins l'action est neuve, moins elle commence. Plus l'improbabilité est forte, plus nous avons en effet affaire à ce surgissement de l'inattendu. Ce qui fait que l'action a une double dimension. Elle a une dimension d'interruption, de rupture. Elle rompt avec un ordre qui est donné. Et dans cette rupture, elle fait surgir quelque chose de nouveau qui n'existait pas et qui est absolument inattendu. Et Arendt a raison, je trouve, de dire que ça, c'est le miracle.
On oublie, c'est vrai, que l'existence humaine a quelque chose de miraculeux.
Et c'est miraculeux, et ce n'est pas du tout en un sens religieux, c'est tout simplement que l'expérience que nous faisons chaque matin inouïe, c'est ce miracle de pouvoir agir, penser, faire quelque chose, vivre, tout simplement. Et lorsqu'elle investit cette notion sous la catégorie d'action, alors ce qu'elle nous dit, c'est qu'au fond, de même que le miracle change la situation du monde ou l'ordre du monde, nos actions sont capables de changer l'ordre du monde. Elles ne le sont pas parce qu'elles seraient toutes puissantes, pas par la mise en évidence d'un pouvoir ou d'une domination, non. Par cette capacité de dérégler, d'interrompre, de modifier le clinamen, l'ordre des choses, et de faire surgir justement des espaces de liberté, des foyers de possibles.
On pourrait en tirer la conclusion inverse, c'est de dire que ce miracle auquel nous assistons quotidiennement, le miracle de la vie organique, vitale, humaine, est tel qu'il nous écrase et que nous sommes vraiment peu de choses face à ce monde dans lequel nous vivons et que notre action ne va jamais peser sur le cours des choses, puisqu'il nous échappe, puisqu'il est miraculeux.
C'est faux.
Et pourquoi ?
C'est faux.
Mais voyez
non,
ce que je veux
faux.
Dire,
on
pourrait le dire à l'inverse. C'est un vertige aussi de prendre conscience du caractère miraculeux et imprévisible de l'existence.
Bien sûr, mais si vous pensez que notre action, petite chose, quasi insignifiante et contingente dans cet univers d'improbabilité gigantesque, est sans effet ou sans consistance et qu'au fond, il est tout à fait vain de vouloir l'entreprendre, je pense que vous commettriez une sorte d'interprétation d'Arendt qui va à l'encontre de ce qu'elle a en tête.
Oui, justement, mais c'est à dessein que je vous fais cette objection.
Ce qu'elle a en tête, c'est plutôt la chose suivante, c'est que toute la puissance de liberté contenue dans ce monde est contenue dans chacune de mes actions, chacune de vos actions, chacune de nos actions collectives. Si nous croyons que nous pourrions imposer au monde un ordre qui serait celui que nous aurions conçu, alors nous serions dans un fantasme de domination de toute puissance qui, en réalité, au nom de la liberté, nous en priverait totalement. Mais si nous sommes rigoureux avec le concept de liberté, c'est-à-dire avec la capacité de commencer, alors nous devons dire la chose suivante, c'est que dans cette immense régularité et immense irrégularité que constitue le monde avec ses infinies improbabilités, chacune de nos actions fait vivre des espaces, des lieux, des expériences de liberté, donc des foyers de sens. Et l'idée que, en agissant librement, nous donnons du sens à ce monde-là, est une idée infiniment plus précieuse et plus importante que la prétention que nous pourrions avoir de contrôler ce monde par des puissances technoscientifiques ou par des puissances politiques. Il nous faut, c'est le paradoxe incroyable, c'est il nous faut préserver dans le monde la possibilité que surgissent toujours de nouveaux commencements. C'est-à-dire il faut justement prévenir la possibilité que le monde soit entièrement soumis à des règles et à des systèmes de régularité qui rendraient impossible le surgissement des commencements, c'est-à-dire qui détruiraient la liberté.
I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity.
Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seul, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement?
All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming.
La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités.
Infinite variety of perhaps possibilities.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h33 et c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophe Hannah Arendt et à son ouvrage « La crise de la culture ». Avec aujourd'hui l'analyse plus précisément de l'article intitulé « Qu'est-ce que la liberté ?» grâce au professeur de philosophie politique à l'Université Paris 7 Diderot, Étienne Tassin, qui est également l'auteur du « Trésor perdu, Hannah Arendt et l'intelligence de l'action politique » publié chez Payot en 1999, ainsi que « Le maléfice de la vie à plusieurs, la politique est-elle vouée à l'échec ?» publié chez Bayard en 2012. Alors, ce que dit Hannah Arendt dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, Étienne Tassin, toujours un extrait du documentaire de Roger Herrera en 74, sur le fait que à la contingence vécue s'oppose la logique de l'histoire, qui découle d'un regard rétrospectif, qui fait que nous donnons sens à ce qui s'est passé, alors que sur le moment, les choses ne font pas sens, nous conduit à la dimension, disons, plus politique de la liberté, qui est aussi le sens de ce texte ici. Car en effet, la question, vous l'aviez évoquée vous-même, comment faire sens dans ce monde qui nous préexiste, avec autrui, sans imposer ce sens à la manière d'une science de l'histoire qui imposerait un sens à la fois préétabli, logique, déterminé, et qui me dépouillerait cette fois-ci de ma liberté.
Oui, il y a différentes manières de concilier, disons, la question de l'histoire à la question de la liberté. Par exemple, Merleau-Ponty essaye de réviser sa philosophie de l'histoire héritée du marxisme en essayant de concilier la contingence et la nécessité. Arendt a une autre posture. Elle dénonce et condamne, si je puis dire, le concept d'histoire tel qu'il est hérité de Kant, de Hegel et de toute cette tradition moderne qui voit dans l'histoire un processus, en effet, d'accomplissement nécessaire orienté vers une fin qui pourrait presque être désignée et connue. Contre cette idée-là d'une histoire déterminée, elle avance qu'au fond, le vrai concept d'histoire, c'est celui hérité de la tradition latine et de Cicéron en particulier, de la res gestae, c'est-à-dire au fond, l'histoire, c'est le récit. des gestes, le récit des hauts faits accomplis par les êtres humains au cours de leur existence. Et par conséquent, elle conçoit l'histoire comme la mémoire des grandes actions ou la mémoire des actions ordinaires, mais en tout cas, l'inscription dans la durée de ces surgissements et de ces commencements que furent les actions des hommes. Et au fond, l'histoire, c'est ça, c'est le recueil des aventures humaines. Rien à voir avec l'idée d'un déterminisme, d'une orientation, d'une finalité, etc. Il n'y a pas de téléologie dans cette affaire. Il y a simplement un grand livre dont on écrit les pages au fur et à mesure, avec au fond, peut-être, si je peux utiliser cette image, le risque que les nouvelles pages que nous écrivions nous fassent oublier les anciennes qui avaient été écrites précédemment, voire les effacent. Et donc, il y a tout un travail autour de la mémoire qui est absolument décisif pour faire que ce qui commence et dont nous ne sommes jamais assurés de la manière dont ça va s'accomplir ou se poursuivre. Parce qu'au fond, le problème du commencement, c'est que le commencement ne contient pas en lui-même l'indication de ce qui est requis pour son accomplissement ou son achèvement. Sinon, en quelque sorte, ce qui commencerait serait déjà une prédétermination de ce qui doit se faire. Mais l'idée radicale d'une histoire non théologique signifie aussi que ce qui commence dans l'action ne comprend pas en soi l'orientation que l'action va donner, les conséquences qu'elle va avoir. Donc en effet, nous devons assumer radicalement une contingence totale de notre être et surtout de nos actions, tout ce que nous en prenons, tout ce que nous entreprenons. Et il revient à ceux qui ont agi de voir leurs actions recueillies dans le grand livre de l'histoire où est déposé en quelque sorte le sens de tout ce qui a été fait. Et c'est pour ça que le rapport au passé est tout aussi fondamental. Il est d'ailleurs peut-être encore plus fondamental par le fait que l'action est pur commencement sans avenir, ou plutôt dont l'avenir n'est jamais connu, n'est jamais su. L'avenir est lui-même absolument imprévisible.
Il y a vraiment un héritage aristotélicien, j'y reviens, dans cette ontologie de la contingence.
Je ne le dirais pas comme ça.
Non, parce que c'est très proche de ce que Aubin qui a dit d'Aristote, ce monde sublunaire où l'action n'est jamais déterminée.
De ce point de vue-là, oui, entièrement. Là où j'émettrais des réserves, c'est qu'il y a toute une physique de la puissance et de l'acte, et donc de l'accomplissement, de l'actualisation comme accomplissement de ce qui est en puissance chez Aristote, dont on trouve des formulations, au fond, équivalentes chez Arendt, mais qui n'impliquent pas nécessairement qu'il y ait chez Arendt cette téléologie implicite, justement, du rapport de la puissance à l'acte.
Certes, alors l'Aristote scientifique, en effet, ne s'applique pas à la démarche arendtienne, mais la pensée d'une contingence absolue, disons, d'ordre éthique.
Absolument. Et la manière dont Arendt, au fond, préserve la possibilité de la liberté et sa signification politique, c'est justement d'assumer radicalement à la fois la pluralité comme principe fondamental ou comme condition fondamentale de l'action humaine et la contingence qui accompagne forcément cette pluralité.
Mais alors le risque n'est-il pas que, justement dans ce récit qu'est l'histoire, que certains hommes subsistent plus que d'autres, que l'histoire soit celle des grands hommes et que finalement cette notion d'égalité à laquelle elle tient tant soit dissoute dans le cours même de l'histoire, qui ne va retirer de ce qui s'est passé, des événements passés, que ceux de certaines personne.
C'est un risque qui est attaché à une tradition et à une tendance. La tradition, c'est la tradition épique. C'est la tradition homérique. On va raconter les exploits d'Achille, de Patrocle, etc., etc., d'Hector. Bon. Et notre histoire ne fait qu'accomplir ça si l'on voit, par exemple, la dimension que lui donne Hegel dans la manière dont il pense l'histoire comme l'histoire des grands hommes qui conduisent le monde. Bon, donc il y a toute cette dimension du grand homme, quoi. Mais il y a aussi autre chose, c'est que nous avons une tendance, en quelque sorte, à vouloir des leaders. Et c'est une tendance très malheureuse, car ceci cache ce qui est infiniment plus important et plus décisif. C'est que les actions, ce sont les actions que les anonymes mènent, que vous, moi, des gens sans nom, sont capables d'entreprendre et de faire. Car des commencements, c'est-à-dire de la liberté et de l'action, il y en a en chacune de nos vies, à chaque moment de notre vie. Et les véritables acteurs de la vie politique, ce ne sont pas les grands hommes. Les grands hommes sont là pour le show télévisé de l'affaire. Les véritables acteurs, ce sont ceux dont on ne parle pas, ce sont les anonymes. Non seulement parce que c'est de leur vie dont il s'agit, non seulement parce que c'est le monde qu'ils composent, mais c'est parce que la somme infinie de ces actions-là constitue le tissu de notre expérience quotidienne, y compris dans les situations les plus désastreuses. Peut-être on aura l'occasion d'en revenir, mais par exemple, le courage n'est pas l'apanage des grands hommes, le courage est l'apanage des anonymes.
courage est un grand mot. Et je n'entends pas par là l'audace de l'aventurier qui risque joyeusement sa vie pour être aussi profondément et intensément vivant que l'on peut l'être en face du danger et de la mort. Le courage que nous considérons encore comme indispensable à l'action politique et que Churchill a nommé un jour la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres, ne satisfait pas notre sens individuel de la vitalité. Mais il est exigé de nous par la nature même du domaine public. Car ce monde qui est le nôtre, par cela même qu'il existait avant nous et qu'il est destiné à nous survivre, ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés. En tant que tel, le domaine public s'oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé, où dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir la sécurité du processus vital. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie, au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu. C'est à la fin de la deuxième partie de l'article « Qu'est-ce que la liberté ?» qu'on trouve ce texte incroyable d'Arendt sur la liberté, j'ai failli dire miraculeux, tellement elle arrive à cerner cette notion même de courage comme étant l'élément essentiel de la vie politique. C'est donc bien ici qu'elle ne pense pas la politique comme affaire simplement de représentation de souveraineté, mais à partir de l'action que chacun d'entre nous peut initier et qui demande du courage, donc. Étienne Tassin.
Oui. C'est une, au fond, assez belle définition du courage et aussi, du coup, une assez belle représentation de ce qui est en question dans la vie politique. Parce qu'au fond, le courage, c'est pas l'exploit, ce n'est plus l'exploit homérique que nous évoquions tout à l'heure d'Achille, d'Hector, etc. Non. Le courage, c'est la capacité que chacun d'entre nous a de sortir de la sphère de sa vie privée où il est à l'abri des périls du monde pour s'exposer sur une place publique et faire valoir quelque chose qui engage le monde, qui engage les autres, qui engage la communauté humaine. Et c'est un risque. C'est un risque parce qu'on sort du système de protection dans lequel on est, on s'expose, et on s'expose à un univers de contingence, à un univers de la pluralité, c'est-à-dire où ce que nous allons dire et faire n'est jamais garanti, n'est jamais sous notre contrôle, et donc nous ne savons pas ce que ça va produire comme effet, ni ce que ça va produire aussi sur nous. Donc il y a quelque chose d'élémentaire, qui veut dire que le courage est la qualité politique partagée par tous. Au fond, un citoyen, c'est un individu qui, un jour, sort de sa maison pour aller sur la place publique. Pour moi, l'exemple le plus remarquable dans les dernières années du courage, ce fut le cas des travailleurs immigrés sans papier, qui, lorsque, par exemple, en 1996, ils décident de revendiquer un statut, d'être reconnus comme des hommes libres, comme des égaux, alors vont sortir de la clandestinité dans laquelle ils sont, s'exposer sur l'espace public et dire simplement la chose suivante, nous sommes des êtres humains. C'est un acte, c'est une action qui est exactement l'exemplification de ce qu'est la liberté chez Arendt, une action qui interrompt un ordre, une action qui fait surgir dans le domaine du visible des êtres agissant ensemble et qui du coup, demande un courage formidable, puisqu'effectivement, dès lors qu'ils apparaissent et sortent de la clandestinité, la police est là pour les repérer, les arrêter, les identifier, les incarcérer ou les expulser. Et donc, en faisant ça, ils ont, à mes yeux, démontré leur courage civique, et ils ont conquis leur titre de citoyen, uniquement parce qu'ils ont témoigné de ce courage. Ce courage, on le rencontre dans d'autres situations. Je reviens de passer quelques jours dans la jungle de Calais et dans la jungle de Grande-Synthe, et je peux vous dire que ce que j'y ai vu, ce sont des êtres d'un courage absolument inouï. C'est une leçon stupéfiante, bouleversante, de rencontrer des individus qui vivent dans les commencements, qui vivent dans une capacité de créer quelque chose de nouveau, qui sont soumis aux pures injures, aux pures blessures, aux pures humiliations qu'ils ont dû subir pendant des mois, des années parfois, pour venir du fin fond de l'Afrique ou du Moyen-Orient jusque sur les rives de la Manche. Et malgré ça, chaque matin est un sourire, un commencement. Il ne parle que d'avenir, il ne parle que de promesses, il ne parle que de ce qui va pouvoir commencer. Et ils ont témoigné d'un courage, non seulement d'une endurance, Arendt joue sur les deux vertus opposées de l'endurance et du courage, mais dans leur cas, on voit bien qu'il y a non seulement l'endurance, mais qui a le courage incroyable de vivre.
C'est intéressant que vous employiez ce terme pour, en parlant des migrants, justement, parce que c'est rarement l'adjectif qui vient en premier, ensuite courageux. Lorsqu'aujourd'hui, on essaie de chercher des figures de courage politique, je pense notamment à l'entretien qu'on trouve dans Philosophie, le hors-série de Philosophie Magazine consacré à Arendt, c'est un entretien avec Edward Snowden, qui figure du courage politique, qui a osé sortir de l'anonymat pour dénoncer tout un système contre lequel il s'oppose, à ses risques et périls, pour le coup, parce qu'il risque effectivement quelque chose en dénonçant un état de fait avec lequel il n'est pas d'accord. Ça reste un courage individuel et extrêmement visible. Or, ce que vous dites des migrants montre bien que vous renversez en fait la perspective sur le courage. Il n'est pas incarné dans une seule personne, c'est une pluralité de personnes.
Oui.
Et ce courage est celui d'une forme de... Enfin, on reste aussi dans l'anonymat dans le cas des migrants.
Oui, je crois important de... Enfin, il ne faut rien renier du courage dont Snowden a fait preuve. Ça, là-dessus, total respect, comme on dit. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la posture où il est, et dans la médiatisation qui rend possible effectivement l'efficacité de son geste, il est en quelque sorte sorti d'un anonymat protecteur, mais il est rentré dans une visibilité où certaines formes de garantie et de protection lui sont acquises par le statut qu'il a construit, par ses révélations, etc., même si les conditions dans lesquelles il vit sont extrêmement douloureuses et sont la privation de sa liberté. Mais il a joué sa liberté, ça c'est du courage. Mais je ne crois pas que le geste courageux dont il témoigne doive nous faire oublier, ce qui est hélas communément le cas, le fait que chacun d'entre nous, et que certains plus miséreux, dans des situations d'indigence, de dénuement infiniment plus grand que les nôtres, témoignent chaque journée d'un courage formidable. Et d'un courage qui n'est pas simplement un courage individuel, vous avez raison de le dire, qui n'est pas une vertu personnelle, qui n'est pas un trait psychologique, non, qui est un acte politique. C'est un acte politique de franchir des frontières, de se constituer en collectif. Et c'est un acte politique de faire savoir au monde qu'on a le droit d'exister, on a le droit d'être reconnu comme des égaux et on a le droit d'avoir un avenir. Et pas
c'est un courage qui est poussé par une nécessité absolue. C'est une question de vie ou de mort.
Exactement. C'est qui transforme la nécessité subie en une liberté désirée. Je ne dis pas voulue, mais désirée. Car la chose la plus admirable que l'on puisse voir dans les camps de Calais ou de Grande-Synthe, par exemple, c'est le désir. Un désir de vivre, un désir de communauté, un désir de lien social, un désir de reconnaissance, un désir d'égalité entre les individus. C'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on a là l'expérience du commencement d'un monde au cœur de notre monde qui ressemble un peu à un monde fini ou à un monde en train de finir. C'est-à-dire un monde fini ou qui est en train de finir parce que justement, qu'a-t-il fait de l'égalité? Qu'a-t-il fait du désir de liberté? Qu'a-t-il fait de la capacité de commencer? Qu'a-t-il fait de l'improbabilité infinie dont parle Arendt? Il a tout fait pour détruire tout ça. Et maintenant, il va le faire en détruisant ceux qui, par exemple, dans la jungle, témoignent encore de cette liberté et de ce courage. Et là, je crois qu'il y a un enjeu politique fondamental.
Merci à vous Étienne Tassin d'être venu nous parler d'Arendt aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Alors je renvoie les auditeurs à vos ouvrages qu'ils auront plaisir à lire, je n'en doute pas. Le maléfice de la vie à plusieurs, la politique est-elle vouée à l'échec? Publié chez Bayard en 2012, ainsi que Le trésor perdu, Anna Arendt et l'intelligence de l'action politique chez Payot en 99. Et vous me glissez glissé à l'oreille à l'instant que le livre chez Payot, donc le livre sur Hannah Arendt, complètement épuisé, dites-vous, va être republié aux Belles Lettres en septembre. C'est une excellente nouvelle. Et je vous renvoie également, chers auditeurs, à la lecture du hors-série que Philosophie Magazine consacre à Hannah Arendt, disponible en kiosque ce mois-ci, en plus du numéro habituel, que vous trouverez aussi, le numéro mensuel, donc, de Philosophie Magazine. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours à 10h51, Géraldine Mosna-Savoie.
Je parle en tant qu'arabe musulman, forcé au silence comme tout être faible qui exprime son opinion sous le ciel d'Orient. Et prie le lecteur de se rappeler cet adage, la vérité se fait connaître par elle-même et non par les hommes. Celui qui parle en tant qu'arabe musulman, qui parle malgré le silence auquel il est forcé et qui parle sous le ciel d'Orient, c'est un auteur qui n'a jamais encore été publié en France et c'est Abdelrahman Al-Kawakibi. Né à Alep en Syrie en 1849, il est l'une des grandes figures du réformisme musulman de la fin du 19e siècle, un précurseur de l'arabisme, aussi surnommé le père des exclus. Alors père des exclus, il faut revenir sur ce surnom, car il révèle à la fois son engagement auprès des citoyens lésés, délaissés, et puis aussi ce qui constitue le trait saillant de sa pensée, la dénonciation du despotisme, notamment donc avec ce texte qui est enfin publié en français chez Actes Sud. Les caractéristiques du despotisme et la lutte contre l'asservissement, c'est le titre de ce texte, paru pour la première fois en 1902, et il a tout de l'essai de philosophie politique des écrits de la modernité, définition d'une anthropologie, questionnement sur le meilleur gouvernement possible, rôle du législateur et de l'éducateur, séparation de la religion et de l'État. Mais il a aussi tout de l'essai prophétique comme ceux d'Alexis de Tocqueville. Car si Al-Kawakibi cite cet adage pour dire que la vérité n'apparaît pas dans les hommes, c'est qu'il a vu, comme le penseur du despotisme démocratique, que le plus grand danger, c'est bien leur penchant naturel, non pas à la violence, mais à l'apathie, la facilité avec laquelle ils s'enlisent et se confortent dans leur place de dominer. Mais mieux que Tocqueville, son texte prend une tournure programmatique. Éveiller les consciences, repérer les situations limites. Lui-même parle de crise financière, de crise religieuse, d'agression collective de femmes ou même de catastrophes naturelles pour en finir avec le despotisme, pour croire finalement encore que la vérité puisse se faire par les hommes.
Ça a l'air absolument passionnant, Géraldine.
Et donc le titre du texte, ouais, du despotisme, il y en a d'autres aussi, c'est publié chez Actes Sud et c'est d'Abdelrahman Al-Kawakibi.
Un grand merci à vous. Et Étienne Tassin vous a déjà volé le livre, ce qui montre que vous avez donné très envie de le lire. Merci à tous, les nouveaux chemins de la connaissance touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. L'actualité philosophique du jour sera consacrée au philosophe Matthew Crawford, qui est un philosophe américain devenu réparateur de motos. Il vous racontera ça, vous verrez, rendez-vous demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles consacrées à Hannah Arendt cette semaine, rien de plus simple, rendez-vous sur le tout nouveau site de France Culture à la page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant les émissions de cette semaine. Et puis vous pourrez également télécharger l'émission, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et nous vous donnons également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.